avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, bienvenue. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le processus de paix au Mali. Cela fait quasiment 2 ans que cet accord a été signé entre le gouvernement et plusieurs groupes armés et le texte demeure encore largement inappliqué. En tout cas, les prochains jours s'annoncent décisifs car tous les protagonistes se disent prêts à donner un nouveau souffle au processus de paix. Ils ont convenu par exemple de mettre en place dès cette semaine les autorités intérimaires à Gao et Tombouctou. Ces autorités qui sont censées amorcer le retour de l'État dans le nord du pays. Dans 8 jours, les patrouilles mixtes, les fameuses patrouilles composées de militaires, de l'armée et d'anciens rebelles, eh bien ces patrouilles devraient également entrer en action. Reste à savoir, et c'est tout le débat ce matin, si ce nouveau calendrier sera respecté et si ces avancées qui figurent pour l'instant sur le papier permettront de sauver l'accord de paix. Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Vous continuez à réagir sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité, et je lirai évidemment comme tous les matins quelques-unes de vos réactions pour alimenter le débat et la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que vous entendez dans nos différents journaux, des sujets que vous pouvez également consulter sur la page sur notre site rfi.fr. On va commencer avec une question qui concerne cette crise qui secoue les sociétés d'agrobusiness en Côte d'Ivoire. Bonjour Mohamed.
Bonjour Monsieur Juan.
Vous êtes à Abidjan, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Donc en Côte d'Ivoire, les autorités pointent du doigt les sociétés d'agrobusiness qui ont fait appel à des milliers de particuliers pour financer leurs activités. Est-ce condamnable?
Oui.
Oui, ça c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, les sociétés d'agrobusiness semblent ne pas avoir assez d'argent pour rembourser les souscripteurs. Comment parviennent-ils à financer, par quels moyens financent
Oui. Ouais, c'est un sujet un peu compliqué et on s'y perd un tout petit peu effectivement, mais c'est un sujet qui concerne, vous le disiez à l'instant, des dizaines de milliers d'Ivoiriens qui ont investi parfois même toutes leurs économies hein, dans ces sociétés d'agrobusiness. Bonjour Frédéric Gara.
Bonjour Juan et bonjour à Mohamed.
Vous êtes le correspondant permanent d'RFI à Abidjan. 27 de ces sociétés sont dans le collimateur de la justice. D'ailleurs, leurs comptes bancaires ont été gelés. Alors, première question de Mohamed, et on la comprend, elle est simple. Est-ce que ces activités, est-ce que l'activité de ces sociétés est condamnable?
Non, Juan, dans l'absolu, il s'agit d'une opération purement commerciale ou des sociétés dites d'agrobusiness, donc qui font donc de l'agriculture le cœur de leur activité, proposent pour faire tourner leurs exploitations d'EVA, de tomates ou de petits piments, eh bien d'emprunter de l'argent à des particuliers ivoiriens pour mieux le rembourser une fois les récoltes écoulées sur le marché intérieur ou bien à l'exportation. Des sommes relativement importantes de 800 000 francs CFA ou plus pendant une période déterminée entre 3 et 6 mois généralement, cette épargne publique empruntée, les entreprises promettent de les rembourser avec des taux d'intérêt extrêmement avantageux et de 100 à 200 voire 300%, ça fait rêver de la somme mise au départ.
Alors ça fait rêver, ça fait rêver, mais est-ce que c'est illégal?
Non, il y a rien d'illégal là-dedans, Juan. Ce qui a interpellé les autorités ivoiriennes ici à Abidjan, c'est justement ces taux de rentabilité inhabituels qui ont mis la puce à l'oreille au Trésor public. Un Trésor public qui a diligenté une enquête et commis un rapport d'une vingtaine de pages sur ces pratiques. Le document fait état de 28 et non pas de 27 sociétés d'agrobusiness, d'une part, et environ 37 000 souscripteurs particuliers, d'où il ressort, en revanche, certaines anomalies qui s'apparenteraient, elles, à de la fraude.
Donc près de 37 000 personnes ont placé leurs économies dans ces sociétés. Alors Mohamed nous demandait si ces entreprises, qui ne semblent pas avoir suffisamment de fonds, peuvent rembourser leurs souscripteurs. Alors expliquez-nous un peu comment fonctionne le système de financement de ces entreprises.
Alors, ce que souligne le rapport du groupe de travail sur l'agrobusiness, ce sont plusieurs types d'anomalies. D'abord, il y a la qualité des dirigeants des sociétés qui vantent les mérites de techniques agricoles de pointe pour leurs exploitations, ce qui expliquerait les taux de rentabilité, mais dont aucun n'a de diplôme ou de compétences particulières dans l'agriculture. Il apparaît par ailleurs également que la plupart des dirigeants interrogés n'ont pas pu faire valoir de titres fonciers concernant les parcelles agricoles exploitées. Mais surtout, d'un strict point de vue comptable, les comptes bancaires qui ont été gelés il y a quelques temps révèlent une discordance entre les sommes déposées sur les comptes, 23 milliards de francs CFA, ce qui fait environ 35 millions d'euros, et les engagements initiaux des souscripteurs, les prêts, des dépôts d'au moins 93 milliards de francs CFA. Ce à quoi les défenseurs du système opposeront que cela est normal, puisque les recettes des nouvelles récoltes maraîchères ou DVA, par exemple, n'ont pas encore été enregistrées sur les comptes, puisqu'ils sont en cours de vente ou d'exploitation. Le problème, c'est que d'après ce rapport, en dehors des versements des souscripteurs, aucune recette n'est enregistrée au crédit de ces entreprises. Bref, le ministère de l'économie et des finances ivoirien en déduit qu'il s'agit d'un système dit de pyramide de Ponzi ou encore d'une cavalerie qui consiste en fait à rembourser un souscripteur et ses intérêts avec l'argent des deux autres souscripteurs qui viendront par la suite et qui adhèrent au système, etc.
C'est un montage.
D'où la suspicion d'arnaque du gouvernement.
Effectivement, et ce système financier que vous évoquez à l'instant est souvent utilisé à travers le monde dans des arnaques. D'ailleurs, il est même interdit dans de nombreux pays, hein.
Oui, il y a eu l'affaire du Sentier au début des années 2000 en France. Plus récemment, au Bénin, on a assisté à ce même système de cavalerie où on rembourse un crédit avec l'argent qu'on emprunte à une autre personne. C'est quelque chose, effectivement, qui a mis la puce à l'oreille, encore une fois, au ministère de l'Économie et des Finances.
Alors, Mohamed, je crois que vous avez une dernière question.
Ma dernière question, cette société-là existe depuis 2008. Et pourquoi c'est maintenant que l'État de Côte d'Ivoire intervient.
Ouais, des entreprises, effectivement, qui existent depuis quasiment 10 ans, Frédéric Gara, elles ont pignon sur rue, certaines font même de la publicité à la télévision. Comment expliquer que l'État s'en prenne que maintenant à ces entreprises?
C'est vrai que c'est la question qui mérite encore une réponse qui n'est pas tout à fait établie. On peut effectivement s'interroger. Elles n'étaient pas vraiment discrètes, ces sociétés, parce qu'elles faisaient justement une grande publicité. Elles avaient vraiment pignon sur rue. Elles faisaient beaucoup de tapage médiatique et publicitaire dans toute la Côte d'Ivoire pour faire valoir leur intérêt et ces fameux taux d'intérêt de 100 ou 200%. Donc on savait depuis effectivement 2008 pour les premières que ces sociétés existaient, qu'elles proposaient ces taux d'intérêt très intéressants. Sur ce point, la réponse est encore un peu nébuleuse, on peut penser, et c'est ce qu'avancent d'ailleurs certains défenseurs du système agrobusiness, que les banques commerciales ont alerté le Trésor public sur ces pratiques concurrentielles qui leur faisaient perdre beaucoup d'épargnants. Pire, face au taux d'intérêt mirobolant des sociétés d'agrobusiness, eh bien, il semblerait que certains particuliers ivoiriens empruntaient de l'argent aux banques pour ensuite le réinjecter dans du crédit agrobusiness, mettant ainsi en péril, selon les banques, tout un système financier. C'est peut-être pour cela que les autorités ivoiriennes ont décidé de se saisir de cette affaire.
Voilà, on a pris le temps de vous répondre, Mohamed, mais le sujet est important. D'ailleurs, si vous nous écoutez en Côte d'Ivoire, que vous avez investi dans ces sociétés d'agrobusiness, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler, témoignez sur notre antenne. Nous vous donnerons la parole vendredi dans la libre antenne, 33 9 693 693 70. Merci d'avoir été avec nous en direct d'Abidjan, Frédéric Gara. Bonne journée également à Mohamed. Abidjan, Côte d'Ivoire, il est 8h18 exactement. On repasse au standard avec Michel, qui nous appelle de Sao Domingo. Alors Sao Domingo, c'est le dernier village de la Guinée-Bissau avant la frontière sénégalaise. Bonjour Michel.
Bonjour Juan et bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute de RFI.
Merci de votre fidélité, nous vous écoutons.
Moïse Katumbi avait annoncé la semaine dernière qu'il accompagnerait la dépouille de M. Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo. Sachant qu'il a été condamné à 3 ans de prison et risque un procès de recrutement de mercenaires, que risque-t-il s'il retourne au Congo?
Ah, que risque-t-il s'il retourne effectivement en République démocratique du Congo? Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Alors l'ancien gouverneur du Katanga a déclaré effectivement il y a quelques jours à la presse qu'il avait l'intention de rentrer à Kinshasa avec la dépouille de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé il y a maintenant 2 semaines à Bruxelles. En principe, Sonia, si Moïse Katumbi rentre, il est immédiatement arrêté?
En théorie, oui. En tout cas, c'est ce qu'avaient toujours affirmé les autorités congolaises. Là, vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, disait que ce n'était pas tellement l'affaire du gouvernement de savoir s'il rentrait ou non, parce que ce n'était pas tellement au gouvernement de dire s'il pouvait se déplacer ou rentrer dans son pays ou non, mais qu'en revanche, eh bien, effectivement, il aurait toujours ses différends à arriver avec la justice. Donc il n'a pas dit ouvertement qu'il serait arrêté dès son arrivée. Le ministre des Affaires étrangères, qui lui était à Bruxelles, a dit que ce retour était peut-être prématuré, étant donné que le cas de Moïse Katoumi fait partie des cas emblématiques qui est censé être réglé par la conférence épiscopale, puisque c'est comme ça que ça avait été prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, il y avait 9 personnalités qui devaient bénéficier de mesures d'expulsion. En tout cas, c'est ce que demandait l'opposition. Et la majorité, elle, estimait qu'elle ne pouvait pas le faire, en tout cas pour ces 3 cas-là, à savoir Moïse Katoumi, Eugène Gomi Dongala et Jean-Claude Muyambo. Et que donc l'opposition a à ce moment-là demandé aux évêques de la Cinco, eh bien, tout simplement de porter ce cas-là et d'essayer de le régler. Et ce que disait le ministre des Affaires étrangères, eh bien, c'était que la Cinco n'avait pas encore fini son travail et qu'auquel cas c'était peut-être prématuré qu'il
le
rende.
Ouais, en tout cas, Moïse Katoumbi, rappelons-le, a été condamné à 3 ans de prison en mai dernier dans un nébuleux litige immobilier. Michel, vous avez une autre question ?
Oui, j'ai une autre question. Son retour au Congo ne créera-t-il pas d'autres tensions entre opposants et partis au pouvoir ?
Ah, peut-on s'attendre, alors on est un peu dans la politique fiction, Sonia Rollet, mais peut-on s'attendre à des tensions, effectivement, si toutefois Moïse Katoumbi revient ? Est-ce que ça risque d'envenimer le climat politique ?
De toute façon, à l'heure actuelle, pour l'instant, il y a des accords à peu près sur rien, et en l'occurrence pas sur le retour du corps de Thierry Tshisekedi, puisque vous le savez, même si les positions varient un petit peu, en gros, la ligne de l'UDPS, c'est de dire qu'il vaudrait mieux que le nouveau gouvernement soit en place avant le retour de la dépouille de l'opposant historique. Et donc, évidemment, ça pose problème, puisque entre le camp présidentiel et l'opposition, on n'était pas d'accord sur ce point, sur savoir quand est-ce que ce nouveau gouvernement issu de l'accord de la Saint-Sylvestre devait être mis en place. Et donc, il y a déjà des tensions qui sont là. Est-ce que l'annonce du retour de Moïse Katoumbi en rajoute, ça va vous mettre un peu de tension côté camp présidentiel, mais la tension, elle existe, ou les différends existent déjà.
Merci beaucoup, Sonia Rollet, correspondante d'RFI à Kinshasa. On s'excuse pour le réseau téléphone, la ligne n'était pas très bonne. Michel, en tout cas, on vous remercie vraiment de votre fidélité. Merci d'écouter RFI, donc à São Domingos, en Guinée-Bissau. Des questions maintenant sur les violences qui ont éclaté jeudi dernier au Parlement sud-africain. On vous en a parlé sur notre antenne. Le président Zuma qui tentait de prononcer son discours à la nation et des députés de l'opposition qui ont tout fait pour l'en empêcher. Bonjour Amadou.
Bonjour RFI, bonjour Monsieur Yohan, bonjour à vos millions d'auditeurs.
Vous nous appelez d'Algérie, de Draria exactement, on vous écoute.
Oui exactement. En Afrique du Sud, le président Zuma s'exprimait au Parlement pour un discours à la nation et ça a donné à des scènes de violence dans l'enceinte de l'hémicycle. Qu'est-ce que les partis de l'opposition reprochent au président Zuma ?
Oui, effectivement, des députés de l'opposition qui ont tout fait pour empêcher le président de la République de prendre la parole. Du coup, eh bien, des agents de sécurité sont entrés dans l'hémicycle pour sortir de force ces députés de la gauche radicale et s'en est suivi une bagarre à l'intérieur du Parlement, scène surréaliste. Bonjour Alexandra Branjon.
Bonjour.
Correspondante d'RFI en Afrique du Sud, ces députés en colère exigent la démission du président Zuma. Concrètement, que lui reproche-t-il ?
Alors, il lui reproche d'être associé à plusieurs scandales. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a plus de 780 chefs d'inculpation pour fraude et corruption, pour pot de vin, dans le cadre d'un contrat d'armement il y a à peu près 10 ans. Des charges qui ont été abandonnées à l'époque pour vice de procédure, mais qui pourraient être réinstaurées. D'ailleurs, il y a une décision de justice qui est attendue dans les mois qui viennent. Il y a également la ferme Candela, c'est-à-dire l'utilisation d'argent public, plus de 18 millions d'euros pour rénover la résidence privée du chef de l'État. Et puis dernièrement, il y a des accusations de ce qu'on appelle ici « state capture », la captation de l'État, c'est-à-dire la mainmise, le contrôle du gouvernement par une riche famille d'hommes d'affaires, les Gupta, qui sont des amis du président. Et ils sont accusés de peser sur les choix du président, et notamment dans la nomination de certains ministres. Il ne s'agit pas d'accusations lancées au hasard, c'est aussi des conclusions d'un rapport de l'ex-médiatrice de la République, Madame Anticorruption, un rapport que le président a tout fait pour bloquer. Je vous rappelle qu'il y a un an, le chef de l'État avait nommé un ministre des Finances quasi inconnu, sans qualification, et il a été révélé après que cette personne avait été invitée plus d'une dizaine de fois à la résidence des Gupta dans les semaines qui ont précédé sa nomination.
Oui. Voilà. Surtout, ce qu'il faut rappeler l'année dernière, Alexandra Bronjon, c'est que la Cour constitutionnelle a jugé que le président de la République avait enfreint la Constitution en refusant de rembourser une partie de l'argent qui avait été utilisé pour moderniser sa résidence privée, sa résidence secondaire, et la Cour constitutionnelle lui avait ordonné de rembourser une partie de cette somme.
Oui, et le chef de l'État a d'ailleurs remboursé une partie de l'argent. Donc, une fois de plus, ça, il ne s'agit pas d'accusation en l'air, hein, il s'agit d'un jugement de la plus haute cour du pays. Et c'est sur ce jugement que se sert l'opposition, et notamment le parti radical de Julius Malema, pour contester l'autorité du chef de l'État. Ils estiment que Jacob Zuma a enfreint la loi, il ne devrait plus être le chef de l'État, et donc ils ne le reconnaissent plus quand il s'adresse au Parlement, et donc ils le prennent à partie et l'empêchent de parler. À noter juste que ça n'est pas uniquement l'opposition qui lui reproche d'être embourbé dans ses affaires. Il y a également des membres de son propre parti qui lui reprochent d'avoir terni l'image de l'ANC. Il y a de nombreux vétérans illustres qui se sont battus contre l'apartheid et qui sont extrêmement en colère, qui accusent Jacob Zuma d'être responsable du déclin de l'ANC et de son mauvais score aux dernières élections locales.
Alors ça nous amène justement à la question que nous pose Roméo en ligne de Djamena. Bonjour Roméo.
Bonjour Monsieur Rouen.
Bienvenue, on vous écoute avec Alexandra Bronjon.
Justement, Jacob Zuma est très contesté dans son propre camp. Est-ce que certains élus de l'ANC ont quitté l'enceinte du Parlement?
Alors, on sait que l'opposition donc a quitté l'enceinte jeudi dernier lors du discours du président de la République. Est-ce que les députés de l'ANC, donc du parti au pouvoir, eux sont restés, même ceux qui sont contre le président Zuma?
Non, ils n'ont pas quitté le Parlement, et c'est parce que c'est un parti qui est profondément divisé. Je vous parlais des vétérans hein, qui sont en colère, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Il y a de nombreuses autres personnes qui ont fait part de leurs préoccupations et qui, dans même certains cas, ont même appelé le chef de l'État à démissionner. Il y a notamment le ministre du Tourisme, il y a eu le chef du groupe ANC au Parlement, Jackson Tembou, il y a des responsables ANC au niveau régional. Mais l'ANC estime qu'il s'agit d'un problème interne, qu'il faut le régler en interne, on ne lave pas son linge sale en public. Et on sait par exemple que le chef de l'État a été convoqué à plusieurs reprises par le comité d'intégrité du parti. Mais surtout le problème, c'est que l'ANC est divisé entre factions pro et anti-Zuma, et a priori les pro-Zuma sont majoritaires. Et puis beaucoup de parlementaires de Midis lui doivent leur poste, ils sont de par leur fidélité au chef de l'État, et donc prendre position contre lui, ça veut dire perdre son travail. Donc il y a probablement de nombreux membres de l'ANC qui en privé pensent que Jacob Zuma devrait démissionner pour le bien du parti, mais qui n'osent pas le dire en public. D'ailleurs, je vous parlais de Jackson Tembou, hein, le chef du groupe ANC au Parlement, il est un des rares à avoir appelé le chef de l'État à se retirer, il l'a fait en son propre nom, et depuis il est resté très discret, probablement qu'on lui a dit de se taire, que le problème allait être réglé en interne.
Ouais, c'est la troisième année consécutive que le discours à la nation du président Zuma est perturbé par des députés de l'opposition. Roméo nous demandait également si une loi pouvait sanctionner de tels agissements. C'est la démocratie finalement.
Alors oui, les parlementaires ont le droit de s'exprimer, hein, c'est d'exprimer leur opposition. Comme vous disiez, ça fait partie de la démocratie. En revanche, cette liberté d'expression, si elle tourne à l'insulte, si elle bloque le débat parlementaire ou si elle enfreint les règles de discipline, là il y a une procédure de discipline. Et d'ailleurs l'année dernière, Julius Malema, le leader de ce parti, les combattants pour la liberté économique, a été suspendu du Parlement pendant plusieurs jours pour indiscipline. Alors justement, aujourd'hui et demain, il y a une commission parlementaire qui doit examiner ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'hémicycle. Alors est-ce qu'elle va regarder uniquement l'attitude des députés de l'IFF qui ont violemment pris part le chef de l'État, ou est-ce que cette commission va également examiner leur expulsion qui a été très musclée, la présence de policiers dans l'hémicycle, l'utilisation apparemment de gaz lacrymogène, on va voir. Et il est également prévu que le chef de l'État s'exprime un peu plus tard dans la semaine au sujet de ces incidents.
On suivra avec vous l'évolution de la situation. Merci Alexandra Bronjon d'avoir été en direct avec nous, correspondante permanente d'RFI en Afrique du Sud. Et on remercie évidemment Roméo qui nous appelait de Djamena. À suivre, un rappel et un point complet sur l'actualité africaine. On revient dans 10 minutes pour parler du processus de paix au Mali.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité Santé.